Choc FM 105.1, Guillaume Laurin, Publireportage. Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin, avec aujourd'hui mon invité en studio, Madame Judith Charret, directrice du Collège La Cité à Toronto. Judith, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Ravi d'être avec toi pour évoquer le rôle de la Cité à Toronto, pour parler ensemble d'éducation. Alors justement, au sein du Collège La Cité de Toronto, quel est votre rôle précisément?
Alors moi, je suis directrice, donc mon mandat, si on veut, je suis directrice du développement des affaires et des programmes. Alors, ce que ça veut dire, c'est que mon rôle aussi, c'est de créer des partenariats avec le milieu de l'emploi, avec le milieu communautaire, donc de voir comment on peut développer ensemble et faire en sorte que la communauté francophone de Toronto, du Grand Toronto et du Centre-Sud-Ouest se développe et s'épanouisse. Et en même temps, m'assurer d'une livraison de programmes, divers programmes qui répondent aux besoins d'une clientèle qui veut étudier au postsecondaire, mais aussi d'une clientèle d'employeurs qui sont prêts à embaucher les diplômés.
Je sais que nombreux sont nos auditeurs qui peuvent s'intéresser à des formations en français à Toronto. Justement, depuis combien de temps est-ce que le Collège La Cité occupe un espace à Toronto?
La Cité, en fait, ça fait plus de 10 ans que la Cité a une présence sur le Grand Toronto, soit sous forme de partenariats corporatifs avec différents événements, des organisations. Mais la présence s'est accrue au cours des 6-7 dernières années où on a commencé à envisager la possibilité de jouer un rôle pour ajouter dans l'offre de programmes collégiaux en français sur le territoire du Centre-Sud-Ouest. Au départ, on était à TFO. Ensuite, quand on a vécu une expansion, on s'est installé avec le Centre francophone du Grand Toronto.
Oui.
Et là, on est en croissance depuis les 4 dernières années.
Quels sont les grands défis liés à l'accès aux postes secondaires aujourd'hui, en particulier à Toronto?
Bien, comme les auditeurs le savent certainement, quand on est à Toronto, la ville de Toronto se distingue de toute autre ville. C'est la plus grande ville et de beaucoup. Elle est plus grande que toute autre ville canadienne. Et donc, ça amène une série d'enjeux, de préoccupations et de limites à l'accès. Donc, on peut parler, par exemple, de la géographie. Alors, étant donné que les francophones ne sont pas tous dans le même quartier, on est à 200 km, 300 km à la ronde où il y a des francophones qui viennent à Toronto, travaillent à Toronto, voyagent comme ça à tous les jours pour venir travailler ou se déplacent beaucoup. Alors, la géographie, c'est un enjeu important. Le coût de la vie à Toronto est un enjeu important qui limite l'accès aux études. Donc, on s'imagine mal faire un retour aux études à temps plein dans un modèle traditionnel du lundi au vendredi, quand en même temps, il faut faire vivre sa famille, puis travailler, etc. Alors, ça c'est une limite importante à l'accès. Et bien entendu, le temps. Alors, comment on fait pour organiser notre temps, pour avoir une vie active, être capable de s'occuper de notre famille, pouvoir travailler et en même temps se prévaloir de cours, d'études ou améliorer ses connaissances et compétences pour obtenir un diplôme et avoir accès peut-être à des promotions ou des différentes opportunités d'emploi. Donc, et ces enjeux-là font en sorte que tout autre mode traditionnel d'éducation sur le grand territoire pour les francophones, ben c'est un pensez-y bien. Il faut vraiment avoir les reins solides si on veut.
Ouais, en effet, on peut imaginer que ce type d'enjeux peuvent freiner plus d'une bonne volonté qui voudrait repartir aux études. Mais justement, alors, qu'est-ce que vous offrez à la Cité? Quelles sont les propositions que vous avez pour pallier ces défis?
Mais quand on a fait l'évaluation sur le territoire, justement, de tous ces enjeux-là et ces limites à l'accès, on s'est dit, si on veut se distinguer à titre de collège, alors avoir une offre vraiment complémentaire sur le territoire et aussi offrir quelque chose qui n'est pas offert par aucun autre collège sur le territoire. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter ou enrayer un peu ces barrières d'accès? Donc, le modèle qui s'appelle maintenant le modèle mobilicité, c'est le modèle qui a été développé pour arriver à répondre à ça. Donc, d'être capable de se synchroniser à la vie des gens et non pas que les gens soient obligés de mettre un peu leur vie en attente pendant qu'ils sont à l'école. Mais nous, on a voulu que la possibilité d'étudier au postsecondaire, que ça s'intègre, que ça se synchronise avec ta vie et non pas que ça soit un ou l'autre.
Alors, si je comprends bien, le mot d'ordre de la Cité et de ce programme en particulier, mobilicité, c'est la flexibilité.
Ah, tout à fait. Je pense qu'on essaie d'être l'organisation la plus agile, offrir le modèle le plus flexible qui fait en sorte que les étudiants, toutes les limites à l'accès aux études postsecondaires sont le plus possible éliminées. Donc, par exemple, le fait d'avoir une partie de tes cours qui sont offerts en ligne, On sait que ça augmente la flexibilité de façon naturelle, mais aussi d'avoir des cours en face à face parce qu'on veut quand même permettre aux gens d'être connectés sur des professionnels, dans des milieux de travail. Les cours de fin de semaine intensives, ça nous permettait justement d'agrandir notre rayon d'accessibilité. Alors là, on parle à des gens qui n'ont pas à se déplacer à tous les jours, trouver un stationnement, faire 2 heures de route dans la circulation, mais de se déplacer 2 fins de semaine par mois. Donc, c'est tout à fait viable, c'est faisable. Donc, je dis pas que c'est facile pour les étudiants parce que on s'entend que nos étudiants sont quand même des étudiants à temps plein qui ont une charge à temps plein de programme. Alors, c'est sûr qu'il y a des sacrifices. Je suis certaine que mes étudiants vont pas beaucoup au cinéma et font pas beaucoup d'autres choses que d'étudier. Par contre, dans le même temps que ça prendrait dans n'importe quelle aventure collégiale, donc les programmes qui ont 1 an ou 2 ans, donc ce même temps-là est investi et sans trop perturber la vie des étudiants.
C'est ça, et la vie personnelle et la vie professionnelle, exact. Et c'est bien ça qui est le plus important. Judith, quels sont les programmes proposés par la Cité à Toronto?
Bon, alors là, notre visée, c'est d'avoir une offre de 12 programmes. On n'a pas de campus, on a un espace où il peut y avoir des cours, mais c'est surtout un espace qu'on appelle l'espace de collaboration et de créativité pour les étudiants. Mais sinon, les cours sont offerts en contexte professionnel. C'est important pour nous que les partenaires employeurs soient des partenaires qui vont embaucher nos étudiants. Fait que il y a des rotations qui vont se faire au niveau des programmes. À l'heure actuelle, on a 7 programmes qui sont offerts. Alors, le programme d'éducation en service à l'enfance, qui a aussi un mode qu'on appelle un peu un accès rapide. C'est-à-dire que on a trouvé une façon créative qui respecte les normes, de reconnaître les compétences des gens qui travaillent déjà dans le domaine, qu'on appelle la reconnaissance des acquis en bloc. Alors, les gens qui sont dans le domaine, mais qui ne réussissent pas à avoir accès à des études postsecondaires ou bien qui ont acquis, des fois, il y a des étudiants, des étudiantes qui ont 9 ans, 10 ans d'expérience dans le domaine, mais ces personnes-là doivent nécessairement avoir un diplôme en éducation en service à l'enfance pour être connues par l'ordre.
Je comprends.
Donc, on facilite ça. Donc, éducation en service à l'enfance, préposé aux soins et soutien personnel, c'est un des programmes. On sait qu'il y a une pénurie, qui s'annonce par rapport à ces domaines-là. Oui. C'est un domaine de l'avenir. Les gens vieillissent et ils restent le plus longtemps possible à la maison.
Et en effet.
Donc, c'est un domaine d'avenir. On a aussi tout le créneau des communications, donc le programme de relations publiques. Toronto, c'est une des villes les plus actives en termes d'agences et d'organisations qui travaillent dans le domaine du marketing, des relations publiques, des communications, de la publicité. C'est aussi le lieu de la fonction publique. Ces gens-là qui ont besoin des relationnistes, qui ont besoin des attachés presse. Alors, le domaine des communications, le programme des relations publiques, le programme de journalisme. Et on dira ce qu'on veut, mais présentement, même si on peut avoir la perception que le domaine du journalisme n'est pas un domaine très, très alléchant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, en fait, il y a beaucoup de possibilités d'emploi pour quelqu'un qui étudie dans le domaine du journalisme, en journalisme, mais aussi dans tout ce qui est dérivé, parce qu'on sait que le monde de la nouvelle est maintenant extrêmement démocratisé, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin des journalistes qui ont un sens d'éthique puis qui vont être chargés de s'assurer que les contenus qu'on consomme sont des contenus qui ont une valeur. Et en passant, le programme de journalisme est offert en partenariat avec Radio-Canada et CBC, et aussi avec Choc FM, qui est un partenaire important, et l'Express de Toronto. Donc, les étudiants ont la chance de vivre vraiment dans les environnements médias de francophones de la région de Toronto. Ensuite, il y a les programmes pratiques en administration des affaires. Beaucoup d'organisations ici ont leur maison mère, cherchent une main d'œuvre bilingue, cherchent à avoir des gens qui sont des adjoints de direction, des gens qui ont un bagage en termes d'organisation dans les bureaux. Le programme vente et représentation, qui est aussi des grandes agences, avoir des comptes clients, alors des vendeurs et des représentants de produits et de services. Et finalement, il y a 2 postes-diplômes, des formations supplémentaires, donc des gens qui veulent se spécialiser dans un domaine en particulier. Dans ce cas-ci, nous, on offre autisme et sciences du comportement. Et on sait que de plus en plus d'enfants ont des diagnostics de plus en plus tôt et ont besoin de gens qui ont des spécialiste pour appuyer ces enfants-là dans leur façon créative d'apprendre. Et santé mentale et toxicomanie, enjeu important à Toronto. On a entendu un cri d'alarme des organisations qui ne sont pas en mesure présentement de répondre aux besoins d'une clientèle francophone qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale et toxicomanie. Donc, on veut ajouter à cette main-d'œuvre-là puis offrir ce qu'on peut comme compétences. Fait que ça, c'est à peu près l'échelle de programme qu'on a.
Programme riche et bien adapté au monde d'aujourd'hui, en particulier à Toronto et à la demande surtout professionnelle. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux me dire qui enseigne à la cité, qui sont les professeurs?
On est tellement chanceux, là. On a des gens d'expérience qui sont des professionnels actifs dans le domaine, des gens comme Marjorie April, comme Jean-François Bisson de Radio-Canada CBC. On a des professionnels comme Jean-François Lheureux de chez Xerox, Eugénia Deval qui est au Conseil scolaire Via Monde. On a des gens qui sont des intervenants, des directions de garderie qui sont depuis longue date. Alors, on a vraiment une cohorte de profs. L'intention de faire une formation professionnelle ou de faire une formation collégiale, de suivre un programme collégial, c'est bien entendu de se faire tailler une place sur le marché du travail dans le domaine qui nous passionne. Et ce qu'on veut, nous, c'est raccourcir la route qu'il y a entre l'étudiant et l'employeur. Et c'est la raison pour laquelle on fait des partenariats avec les employeurs afin que on crée ces rapprochements-là le plus rapidement possible. Dès la première journée dans le programme, on est déjà en contact et on se crée un réseau.
Justement, Judith, moi, j'aime les belles histoires. Est-ce que tu as quelques exemples de réussite d'anciens étudiants à nous proposer?
Ah oui, je les nommerai pas parce que j'ai pas leur permission, mais je peux parler d'une étudiante qui est arrivée chez nous, qui était inquiète pour un retour aux études. Des fois, ça fait longtemps qu'on est allé, qu'on a étudié, on n'a pas confiance, ouais. On pense qu'on sera pas capable de réussir les cours. Alors là, il y a tout ça. Comme on a des petites classes, et c'est un de nos objectifs d'avoir des petites classes, on était capable de l'accompagner et tout. Et tout récemment, elle est passée au bureau me rappeler ce moment-là, parce qu'on oublie, nous. Mais elle me rappelait, elle dit, te rappelles-tu quand je suis venue la première fois et que j'étais tellement certaine de tout échouer? Elle dit, je veux te dire qu'on vient de m'offrir le poste dans l'organisation pour lequel je faisais ce programme-là. Mmh. Et je veux remercier le collège parce que c'est l'accompagnement, le support. On a vu des étudiants chez nous qui sont passés d'un salaire minimum de 14 $ à 26-27 $ de l'heure. Mmh. Ça change la vie d'une famille. Puis moi, quand j'apprends ça, ça donne un sens à ce qu'on est en train de faire ici.
Pour résumer, quelle est la plus-value pour des étudiants qui voudraient s'inscrire dans un programme offert au Collège de la Cité à Toronto?
Je pense que ce qu'on a à offrir, c'est une approche ultra personnalisée. C'est un modèle qui va se rendre le plus flexible possible pour que ça se synchronise avec la vie des gens et non pas qu'on demande juste à l'étudiant d'un peu se conformer à un modèle existant. On veut vraiment participer comme un levier, comme un partenaire au succès et à la réussite des étudiants. On n'est pas responsable du succès et de la réussite, mais on se voit comme étant un partenaire. Et on fera tout ce qu'on peut comme collège pour mettre les étudiants en connexion avec des professionnels, un réseau, des organisations qui vont enrichir leur vie puis peut-être les aider à réaliser ces rêves-là.
Judith Charest, pour conclure, un mot de la fin. Quelles seront les prochaines étapes? Quand est-ce que les périodes d'inscription vont s'ouvrir pour la cité à Toronto?
Alors, l'inscription est toujours ouverte pour le mois de janvier. Il y a une offre de certains programmes qui sont ouverts au mois de janvier, dont journalisme, éducation, service à l'enfance, autisme et sciences du comportement. Vous pouvez toujours joindre le bureau de la Cité à Toronto pour avoir ces informations-là, mais il est encore temps. Et sinon, la prochaine période d'inscription se fera au mois de septembre. Parfois, les gens sont pas certains tout de suite, mais c'est bien de commencer à ouvrir un dossier, à venir rencontrer les gens pendant la période hiver et printemps, pour pouvoir consolider son inscription pour septembre.
Merci beaucoup, Judith Charest, directrice de la Cité à Toronto, d'avoir répondu à mes questions sur les ondes de Choc FM 105.1.
Merci.